On va parler un petit peu d'Ésav et de Yaakov. Il y aura peut-être quelques enseignements aussi dedans, des choses qui peuvent aider à toutes sortes de situations difficiles. Alors peut-être je vais commencer avec la paracha de cette semaine. Yaakov Avinu, il est mort et il se fait enterrer dans Maharat HaMakhpela. La Gemara raconte en Sota, Gemara connue, que Esav ne voulait pas que Yaakov y sera enterré dans Maharat HaMakhpela. Qui a enterré Maharat HaMakhpela? Adam et Chava, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka. Et maintenant, il y a encore le dernier couple qui vide. Il y avait 8 tombes. Et qui est dans ces 8 tombes? Léa. Il reste une place. Pour qui c'est cette place? Alors, Esav, il pensait pour lui, je suis le Bechor. Moi, je suis le successeur de mon père. C'est ma place. Yaakov connaissait ça. Et il a donné de l'argent, comme Rashi raconte, « Bekivri asher karitili » on a vu ce matin dans la synagogue à Montrouge. Dans la tombe que je me suis acheté, tout l'argent qu'il a amené de chez Lavan, il a donné à Esav pour acheter sa part dans la tombe. Très bien. Mais Esav, il a changé d'avis. Il est venu, il a fait un balagan. Il a amené tous ses enfants et ses petits-enfants et tous ses soldats. Et on voulait enterrer Yaakov et ça ne marchait pas. Tout le monde connaît l'histoire. Yaakov, il a dit à Naphtali, écoute, j'ai un document. Il a dit à Esav, j'ai un document signé de ta part. Montre le document. On l'a oublié en Égypte. Il a dit, Naphtali, tu prends le TGV, tu pars en Égypte et tu ramènes le document. Et Dan, il avait un fils, il s'appelait Hushim. Il entendait mal. Il disait, c'est quoi les discussions? Qu'est-ce qu'ils veulent ici? Où est le problème? On lui a montré, ils savent, il fait des histoires. Alors il a remarqué qu'il est parti, il a donné un coup, il a tué Esav. Comme ça, c'était réalisé la prophétie de la mère Rivka, Lama Eshkol Gam Shnechem Beyom Echad. Je vois, je vais perdre les deux jumeaux, je veux vous perdre le même jour. Le jour de l'enterrement de Yaakov sera l'enterrement d'Esav. C'est où les deux ou personne. Alors la tête d'Esav, il a roulé dans le Maharat HaMakhpela, comme ça dit la Gemara. Et s'est roulé chez Yitzhak, et Yitzhak, il a pris la tête d'Esav. Alors Yaakov, il s'est fait enterrer. Donc la tête d'Esav se trouve dans la Maharat HaMakhpela, mais pas le corps. Où le corps était enterré? Il y a deux avis. D'après un avis, le corps d'Esav était enterré dans le champ de Maharat HaMakhpela, mais pas dans la grotte. Et d'après un avis, les enfants, ils ont pris le corps d'Esav et l'ont enterré à Arseir. Bon, ça c'est la Haggadah dans la Gemara Sota. Mais qu'est-ce que ça signifie cette histoire? La tête d'Esav, il est dans Maharat HaMakhpela. Maharat HaMakhpela, c'est les plus grands tzadikim du monde. C'est ça la base du monde. Et les Avot, Avram, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa. Sauf Rachel. Rachel était Keva Rachel, c'est spécial. Et plus la tête d'Esav. Mais il faut avoir un mérite. Donc il avait un mérite, Esav. Il faut dire qu'il a sa tête, il est Maharat HaMakhpela, il a un mérite. Bon, ça c'est le premier constat qu'il faut faire dans cette histoire. Mais on va regarder, on va commencer au début de l'histoire. Il est né dans quel paracha déjà, Esav? Toldot. Et Yaakov? Pareil. Oui, ils sont nés. C'est des jumeaux, oui, ils sont nés ensemble. Parashat Toldot. Très bien. Et le texte, il dit, ויהב יצחק את עשיו כצייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. יצחק אבינו אילה מעשיו. יעקב אילה מ... יצחק אילה מעשיו, רבקה אילה מיעקב. Ça, c'était au début. Est-ce qu'à fur et à mesure de la vie de Yitzhak, de Yisav, de Yaakov, il y avait un changement dans cet amour? Est-ce qu'une fois il est écrit dans la Torah que Yitzhak il a retiré de Yisav son amour? Il n'a pas marqué dans la Torah. La Torah nous dit que Yitzhak il aimait. Jamais il est marqué qu'il n'aimait pas. Yitzhak, il aime Esav. Rivka, elle aime Yaakov. On dirait match nul. Le père, il aime celui-là. La mère aime celui-là. Oh, d'accord, ça va. Mais notre connaissance d'Esav, qu'on a appris depuis qu'on est des enfants, Esav, c'est Esav Aracha. Esav, c'est un voyou. Un gangster, un assassin. Comme ça, on a l'image. Comme ça, il est marqué dans le prophète aussi. Et Esav Saneti, je déteste Esav. Et Yaakov, et Esav Saneti. Et comme ça, il y a beaucoup de chazal, beaucoup de gmarot. Mais on va regarder un petit peu le Chumash. Comment le Chumash, il présente ses deux enfants? On va oublier pour un moment, on va mettre à côté tous nos préjugés. Et toutes nos connaissances sur Esav, on va enlever. On va lire le texte comme un nouveau-né. On n'a jamais vu le Chumash. Comme la Havdil un goy, qui n'a pas le Midrashim, qui n'a pas la finesse, qui ne voit pas la signification de chaque chose. On lit le texte tel qu'il est écrit. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Esav, il est né, Yaakov est né, ce sont deux frères. Dans le ventre de leur mère, ça bougeait. Bon, ça bougeait. Elle est partie consulter. Vous avez deux enfants différents. D'accord, gentil, deux enfants différents. Très bien. Ils s'entendront pas trop bien. Bon, d'accord. Et les deux, ils naissent. Yitzhak Elem Esav, qui tzaïd bepiv. Tzaïd bepiv, il a porté à manger à son père, gentiment. Yitzhak Elem. Et l'autre, il est studieux. Yosef Ohalim. Rivka Elem, le studieux, il est dans ses livres, il est dans l'université. Il a la yeshiva, bon, on ne sait pas où il est. Yosef Ohalim, il aime bouquiner. Et l'autre, il aime la forêt. Très bien. Rien à faire de faire un plat de ça. Arrive un moment que Esav vient de la chasse, très fatigué. Et Yaakov, il est en train de fabriquer une soupe rouge. Esav, il arrive à la maison, il voit la soupe rouge de lentilles. Oh, donne-moi cette soupe-là. Je suis très fatigué. Je crève de faim. Donne-moi la soupe. Yaakov, ah non, 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 il n'y a pas de cadeau. Tu vas me vendre ton droit d'aînesse pour cette soupe. Quoi, frérot? Qu'est-ce que tu dis? J'ai faim. Tu peux me donner la soupe? Non, 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 non. Tu me donnes pas? Non, je ne donne pas la soupe. Je te la vends. Tu me la vends? Quoi, on est au McDonald's ici. Combien? Tu veux 10 euros? Je te paye 10 euros. Non, 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 pas 10 euros. Quand tu veux 50? 100. Je crève de faim, tu peux me donner? Qu'est-ce que tu veux? Le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi ça le droit d'aînesse? Tu es l'aîné? Oui. Moi je suis le deuxième? Oui. On va changer. Je te dis que j'ai faim, tu peux me donner, après on va discuter après. Non, 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 rien du tout. Ouh là là, c'est quoi le droit d'aînesse? Je suis le bror, le bror reçoit le double d'héritage. Si papa il est millionnaire, j'en ai 666 000 euros Et lui, il a 303 000. Il veut, lui, les 600 000. Quoi, il veut 600 000 euros pour la soupe? Mais dis-moi, frère, tu es fou, tu peux me donner la soupe? Non. Non, je ne te donne pas. Je suis en train de mourir. Je suis en train de faire une hypoglycémie. Ça me sert à rien. Je suis en train de mourir. Tu me donnes maintenant si je vais mourir. Tu vas me signer le contrat. Tu vas me vendre. On prend un document avec en tête, entreprise Jacob, entre frères. Tu vas me signer. Claire fait sans regret et truc. Tu me vends. Ouh là là, ça y est, il a signé. Voilà, tu prends du pain, tu prends la soupe, tu donnes Coca-Cola sûrement aussi, en prime. Un goy, il lit cette histoire. Ça sent pas bien, ça, entre ces deux frères-là. Mais qui sent pas bien? Et ça, pour Yaakov. Yaakov, ça sent pas bien. Qu'est-ce que le pauvre Esav, il a fait de mal? Mais qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il est fatigué. Alors, on n'a pas le droit d'être fatigué. J'étais à la forêt et je suis fatigué. Je crève de faim. J'ai péché. Qu'est-ce que tu me racontes ici des histoires? Bon. Pourquoi la Torah raconte une histoire comme ça? Mais la vie continue. Et Esav, il se marie. Il a 40 ans, il se marie. Son père se marie à 40 ans. Lui aussi, il se marie à 40 ans. Il a deux femmes, et Yehudit bat Beri Achiti, et Bosmat, Matelon Achivit, Triyeti. Vatien Amorat Ruach, la Yitzhak ou la Rivka. Elles étaient pas bien aux yeux de Yitzhak et Rivka. Les beaux-parents ne la supportaient pas, et les énervaient. Comment? Elles faisaient des Ktoret Avodazara, c'était des Goyotes. Un, elle s'appelait Yehudit. Ça veut dire, il a converti, tu vas rentrer dans notre famille. Mais à la fin, elles n'étaient pas bien. Elles n'étaient pas bien. Nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur envoyer. On va s'imaginer un petit peu. Yitzhak, Rivka, ouais. Papa, tu n'aimes pas trop mes femmes? Tu sais, c'est difficile avec cet Avodazara. C'est toute la journée en train de sentir ce que t'auras d'Avodazara. Papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu veux que je la divorce? Tu veux que je les divorce? J'ai des enfants. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Papa, moi aussi, ça me dérange. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est marié avec une femme. Et les beaux-parents ne sont pas contents. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis victime d'une situation difficile. Elles ne veulent pas changer. Divorcer, la mère de mes enfants divorcée, c'est péché. Il a fait un péché, ils savent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Yitzhak était fâché. Il semble qu'il n'était pas fâché. Les années continuent. Et Yitzhak, il arrive âgé. Et ça vient. Tu sais, je suis âgé. Je ne sais pas quand je vais mourir. Il faut que je veux faire le testament maintenant. Je vais te donner la bracha. Prépare-moi un bon gibier, comme je l'aime, et tu viens chez moi, et je vais te bénir. Mais attends, tu sais que la femme de Esav, les femmes d'Esav ne sont pas bonnes? Oui, je sais. Mais Yitzhak n'a rien accusé. Il n'y a pas un mot d'accusation contre Esav. Rien. Ça veut dire qu'il continue à l'aimer. Mais pas seulement il continue à l'aimer. Il va préparer la bracha maintenant à Esav. Mais il sait qu'il est Yaakov. Yaakov, il est studieux. Non, non, la bracha, c'est à Esav. Très bien. Nous, Esav, il part à la chasse. Et Yaakov, il est en train d'étudier la chasse. Il arrive Rivka, viens Yaakov. Tu sais que ton père, il veut donner la bracha à Esav? Non. Ah ben, il faut pas. Il faut que toi, tu prends la bracha. Moi? Mais papa veut donner à qui? À ton frère? Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Non, il faut que toi. Amène-moi deux chevreaux. Et je vais faire quoi avec? Tu tu l'amènes chez ton père. Je l'amène chez mon père. Mais il veut pas me donner mal à bracha. Il veut donner à Esav. Mais tu te fais passer par Esav. Moi, je me fais passer pour Esav. Tu veux que je trompe papa? Oui, tu vas tromper papa. Je trompe papa quand je... Mais et s'il va remarquer, s'il va m'étater, il va voir que je suis un jumeau, il va, à la place de me bénir, il va me faire le contraire. Pas ton problème, c'est moi, je me règle, ça c'est pour moi. Nimshikapara, comme on dit chez nous au Tunisien, c'est pas ton problème. Alors, et Yaakov, il va chez la mère, un truc. Après, prépare tout bien avec la salade et comme il faut. Je suis, l'autre il a des poils, moi j'ai pas des poils. Elle coupe, elle met ici le truc, des poils comme un. Lui ils savent comme un deretsear, comme une peluche, comme un ours. Eh bien je te fais un ours ici, je te mets ici, et tu vas te faire passer pour ça. Ouais. S'il te plaît, papa, assieds-toi. Et mange du gibier de ton fils afin que ton âme me bénisse. Et tu es qui, mon fils? Je suis Esav, ton fils aîné. Tu es mon fils aîné? Viens, mon fils, rapproche-toi. Il était aveugle, Yitzhak, il ne voit pas. La voix, elle est la voix de Yaakov. Les mains, c'est les mains d'Esav. Dis-moi, qui tu es? Tu es Esav? Oui. Viens, embrasse-moi. Alors, l'embrasse. Ah, c'est l'odeur. Ah oui, c'est l'odeur de la forêt qui a se déverra Hachem. Oui, c'est l'odeur. C'est bon. Que Dieu te bénisse, et que tu seras le chef, et que tes frères se prosternent, et que tu seras riche, et tu auras le pouvoir, et très bien. Et Yaakov, il part, et il y avait une porte qui tourne comme ça, et Yaakov, il sort, et Esav rentre. Ach, yatzo, yetze, et Esav rentre. Papa, voilà le gibier de ton fils, afin que tu me bénisses. Mais qui tu es, mon fils? Je suis Esav, ton fils aîné. Oui. Alors qui c'est celui qui est venu? Il m'a rusé. Et il s'est fait passer pour toi. Et je lui ai donné la bracha. Eh bien, qui sera béni? Quoi? Papa? Qu'est-ce que tu dis? T'as donné la bracha à qui? À Yaakov? Il m'a volé la bracha? Non. C'est pas possible. Je lui ai donné le pouvoir, l'argent, la richesse. Tu viens te prosterner. Et ils savent. Papa, tu me bénis aussi? J'ai donné. Je peux pas. Et ils se mettent à hurler, à crier. 300 décibels. Et ils pleurent. Papa, donne-moi la bracha. Bon, d'accord, alors je te donne une bracha. Il a donné une bracha. Vaïstom et Esav et Yaakov, et Yaïsav, il déteste Yaakov. Mon père, un jour, il va mourir et je vais tuer ce frère. Pas si mon papa, il est vivant, je ne vais pas tuer. Ce sera mon père. Mon père, je ne vais pas toucher. Faut pas que ça. Mais papa, il est vieux, un jour, il va mourir. Je vais le tuer, mon frère. C'est pour ça qu'il s'appelait Yaakov. Quand il était jeune, il m'a volé ma droit d'aînesse, et maintenant il m'a volé la bracha. Maintenant je comprends. Achikar Shmo Yaakov et Yaakven Izepamaim et Bachoreti Lakach, Vata Lakach Gamet Birchati. Mais mon frère, depuis sa jeunesse, il a préparé le coup. Il m'a vendu. Il m'a acheté la bracha. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Mais l'histoire de la soupe. La soupe. Et puis, Yaakov, il ne voulait pas me donner soupe, je crevais de faim. Il m'a demandé le droit d'aînesse. Il m'a roulé quand il était jeune. Il a préparé le coup. Mais il est malin. Mais il est plus que malin. Mais il est machiavélique, ce type. Il m'a acheté le droit Ah, il t'a acheté le droit. Bon, alors donc c'est lui le Bechor. Alors, bon, alors il est béni. Mais papa, qu'est-ce que tu me fabriques là? Il m'a rusé et maintenant il m'a volé. Il se fait passer pour moi. Ça s'appelle usurpation.
Identité.
Monsieur Rothschild, banquier. Hein, il arrive. Un homme, il se déguise en monsieur. Il va acheter le même truc des banquiers. Il va faire une carte d'identité falsifiée avec des vrais trucs au ministère d'Intérieur. Il vient à la Banque Rothschild. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis le patron de la Banque Rothschild. Ah, vous êtes monsieur Rothschild, oui? Voilà, regardez. Il y a une photo et tout. Ah oui, vous voulez quoi? Et les clés du coffre-fort. Et monsieur Rothschild, il a les clés. Il amène le camion 36 tonnes, il enlève tous les lingots. Et il sort. Une fois qu'il est sorti, il arrive un monsieur, le truc. Bonjour, bonjour. Vous êtes qui? Monsieur Rothschild. Vous êtes monsieur Rothschild? Oui, regardez, je suis monsieur Rothschild. Mais votre coffre, il est vide. Mon coffre, il est vide. Mais 5 minutes avant moi, il y en a un qui veut. Il se fait passer pour vous. Mais c'est un faux. Mais je vais le tuer, ce type-là. Mais je vais le tuer, ce type. Qui est le méchant? Qui est le tordu dans l'histoire? Et il s'avoue, Yaakov. La Torah raconte ici une histoire. Que tu lis cette histoire, c'est Yaakov, c'est la problématique, c'est Yaakov. Et ça, c'est une pauvre victime. Pauvre victime. Pourquoi la Torah raconte une histoire comme ça? Alors, on va regarder un petit peu ce que la Gemara nous raconte. Et on va essayer de comprendre un peu mieux. Qui est Esav? Il est venu, il avait 15 ans à l'époque, il est venu, il crevait de faim. Il est en train de mourir. Pourquoi il était si fatigué? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Comme Rashi raconte, il a tué et il a pris une fille fiancée. Il a méprisé Dieu. Minute, il a tué, oui, il a tué. C'est pour ça qu'il était fatigué. Mais est-ce que Yitzhak Avinu, il a entendu que son père a tué? Et ce n'est pas le seul qu'il a tué. Là, il a commencé la carrière de tuer. À 15 ans, il a fait son premier meurtre. Est-ce que Yitzhak Avinu, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et aveugle, il était quand il était vieux, pas quand il était jeune. Il n'était pas aveugle. Et il avait des oreilles, quand il n'a pas lu le journal. Le fils du grand rabbin Isaac, il est assassin. Et qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak? Dis-moi, Esav, il paraît que tu as tué quelqu'un. Esav, tu as tué quelqu'un. Bien sûr, papa. Quoi, bien sûr, encore tu es fier. Mais tu sais qui j'ai tué? Qui t'a tué? Nimrod, le plus grand gangster du monde. Nimrod, ce qui jetait ton père Avram dans la fournaise. Ou Nimrod, Gibor Tzaïd, c'est lui le plus grand gangster. J'ai tué Al Capone. C'est péché, papa? Ah, Zakobor. Ah, quel fils. Et pourquoi tu le tuais? Pour sauver mon frère Yaakov. Tu sais, c'est mon frère Yaakov, le grand Chacham, le grand Tamitra. Moi, je ne suis pas, je ne sais pas, je n'ai pas des nerfs pour Asara la Yeshiva. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Mais moi, j'ai un frère, Tzadik, Chacham. Mais je ne veux pas que toi, papa, et mon frère, il a le même problème que mon grand-père Abraham, il avait. Je le liquidais. Et en plus quoi? En plus, je t'amène un cadeau, papa. L'habit que Nimrod, il a pris d'Adam Harishon. Confectionné pas chez Smalto. Confectionné au Gan Eden par le bon Dieu. À Kadesh Baruch, il a confectionné un habit pour Adam Harishon. Et cet habit a été donné d'Adam Metushel, Metushel à Noach. Noach s'est couché, il a volé. Et Nimrod, il a reçu l'habit le plus cher, le plus beau. C'est un habit de la Ruach HaKodesh. Cet habit-là, papa, je te l'amène. Et tu me permets que je m'habille avec pour te servir, papa? C'est comme un Kohen Gadol, il a des beaux habits. Toi, papa, le Navi Hachem, je vais m'habiller avec cet habit, je t'amène le gibier. Je tuais Al Capone, le plus grand gangster du monde. pas mal, mon fils. Il est pas mal. Il a de l'énergie, mon fils. Pour le moment, ça va. Tout est bien. Seulement, le problème, il est... Le texte, il dit, il se marie à 40 ans. Parce qu'il a dit, papa, il s'est marié à 40 ans. Moi aussi, j'ai fait comme papa, je me marie à 40 ans. Mais papa, jusqu'à 40 ans, il... Ça y est, il était tzaddik. Et qu'est-ce qu'il faisait à Issa pendant les 40 ans? Rashi raconte, Hayat tzad nashim tachat yad baalehem ou ma'anan. Il piégeait des filles mariées, il les a pris pour lui. Ah, ça, c'est pas très gentil, ça. Ça, aujourd'hui, avec, comment ça s'appelle aujourd'hui? Matou, comment ça s'appelle? Non, ça s'appelle, comment il s'appelle là, dans les. Hein? Tout. Mito, comment ça s'appelle? Aujourd'hui, ça passe plus, ça. Mais à l'époque, ça passait. Une minute, il sera qu'il était aveugle. Dis-moi, Esav, j'ai entendu sur toi, on parle sur toi. Ah bon, qu'est-ce qu'on parle sur moi, papa? Des choses pas beaux. Ah oui? Quoi, dis-moi, papa? J'ai honte de le dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, papa? Il paraît qu'il y a des femmes mariées qui ont se plaint. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est une erreur. Quoi, c'est faux? C'est vrai, mais c'est faux. Ah bon, c'est vrai ou c'est faux? Papa, laisse-moi expliquer. Je vais te raconter ce qui se passe. Je vais te raconter. Un jour, je marche dans la rue. Une femme, elle se promène, elle pleure. Une femme, elle pleure. Elle vient. Je demandais, pourquoi vous pleurez? Mon mari me massacre. Aïe. Mon mari me massacre, il va me tuer, un jour il va me tuer. Oh là là, c'est pauvre. Pourquoi? Je sais pas, il est fou. Non, non, un mari massacre pas une femme comme ça. Il est fou, vraiment. Non, il n'est pas fou, mais il m'accuse. Qu'est-ce qu'il vous accuse? Il m'accuse, je fais l'adultère. Et il est fou, hein, malade. Et je le vois une fois, le lendemain, le troisième jour. Et chaque fois, il me raconte la même histoire. Mon mari m'a massacré et tout. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette femme? J'ai dit, madame, j'ai réfléchi. Je pense qu'il faut que vous demandiez le divorce. C'est la seule solution. Un mari qui est jaloux, qui est fou, qui aime le truc. Divorcé. Quatrième jour, je le vois dans la rue. Bonjour, bonjour. Mon mari m'a divorcé. Mazal tov. Mais monsieur, j'ai un problème. Je n'ai pas où aller, je n'ai pas où manger, je n'ai pas où habiter. Et j'ai deux petits-enfants. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je fais, moi? Une pauvre femme jetée dans la rue. Elle n'a pas où manger, elle n'a pas où dormir. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux vous aider, madame? Je ne sais pas, trouvez-moi un lieu de ma femme battue, divorcée, avec enfant. Trouvez-moi quelque chose. Pourquoi? Moi, je suis le secours catholique, moi. Qu'est-ce que... Je peux vous proposer quelque chose. Je suis célibataire. Je suis d'accord de me marier avec vous. Et je vais vous manger, j'ai une maison... Ah, vous êtes un bienfaiteur de l'humanité. Et je me marie avec elle. Papa, qu'est-ce que tu as entendu sur moi? J'ai pris des femmes mariées et j'ai fait du mal. C'est ça l'histoire. Ah, et mon fils est un tzaddik. Mais mon fils est un tzaddik. Il a sauvé la femme qu'elle ne se fait pas tuer. À la fin, il dépense d'argent, il a deux enfants à la maison pour une femme truc. Et les gens, ils parlent mal de moi, papa. Mais la vie continue. Après, une deuxième histoire. J'ai entendu encore une fois sur toi. Il paraît que tu fais des histoires avec des femmes. Quelle histoire avec des femmes? Mais encore une fois, il y a une femme mariée que tu as pris. Mais papa, c'est encore une fois la même histoire. Tu crois qu'il y a une femme battue? Il y en a beaucoup de femmes battues. Elles se font jeter dans la rue et tout le monde l'a entendu, que j'ai pitié. Alors, je vais pas nourrir des femmes comme ça, tu comprends. Alors, j'ai plusieurs femmes à la maison, mais par pitié, tu comprends. Oui, ça s'entend. Non, mais il y a une chose qu'il n'a pas racontée. L'histoire était un peu différente. C'est que les hommes qui frappaient leurs femmes parce qu'ils étaient accusés d'adultère, c'est quelqu'un, il est venu raconter au mari qu'elle a fait l'adultère. Il y a quelqu'un qui est venu chez le mari, vous savez, votre femme, il paraît qu'elle traîne avec quelqu'un. C'est vrai, oui. Vous êtes qui, monsieur? Le fils du grand rabbin Isaac. Moi, je raconte un salade, moi. C'était Esaü qui racontait que la femme fait l'adultère. Hein? Et après, le mari l'a massacré. Après, lui, il est dit divorcé. Après, lui, il a pris. Cette partie, il ne savait pas. Il y a un Gemara dans Masechet Gittin. La Gemara raconte qu'il y avait un menuisier. Je ne sais pas si l'histoire elle est vraie ou elle a inventé de la Gemara. Elle fait un scénario, mais ça ne change pas. Là, on nous dit pourquoi le temple était détruit. Alors, on raconte une anecdote pour la destruction du temple. Il y avait un menuisier, il avait un élève. Et un jour, le patron, il avait besoin d'argent. Alors l'élève, il avait hérité, je ne sais pas quoi, il avait de l'argent. Il dit, maître, vous voulez que je vous prête d'argent? Ah, c'est très gentil. Et il a prêté 50 000 euros. Alors je vous prête pour 6 mois les 50 000 euros. Les 6 mois sont terminés. Et l'élève, il dit, maître, je vous ai prêté d'argent. Oui, je sais. Mais il faut rembourser. D'accord. Pas de problème. Je te le rembourse dans quelques jours. Je te le rembourse. Je vais te le rembourser. Alors, il donne les 50 000 euros à sa femme. Tu l'amènes chez mon élève. La femme vient chez l'élève. Et l'élève, avec cette femme, ça tournait pas. Ça n'était pas très cachère. Après, elle est partie, cette femme. Elle n'est pas rentrée à la maison parce qu'il s'amusait avec cette femme 1-2 jours. Le troisième jour, elle le renvoie à la maison. Et le mari, il est inquiet. Pourquoi ma femme ne revient pas à la maison? Alors, le patron, il vient chez l'élève. Il dit, dis-moi, et ma femme est venue chez toi? Il dit, oui. Elle m'a donné l'argent. Mais je l'ai renvoyée tout de suite. Mais ça fait 3 jours qu'elle n'est pas venue à la maison. J'ai entendu, effectivement. Il paraît qu'il y a des histoires dans la rue, elle traînait dans la rue. J'ai entendu des mauvais trucs sur votre femme. Aïe, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que tu me conseilles? Il y a une femme comme ça, ça vaut la peine d'être divorcée. Mais quand je suis marié, j'ai écrit que je dois payer beaucoup d'argent dans la ktouba si je la divorce. Ça va me coûter les yeux de la tête pour la divorcer. Je n'ai pas d'argent. Il dit, maître, je peux vous prêter. Ah, c'est très gentil. L'élève, il a prêté. Alors, il a divorcé la femme. Une fois qu'il a divorcé la femme, lui, l'élève, il s'est marié. Mais avant de divorcer, quand il est divorcé, il a donné les 50 000 euros à sa femme, de Ktouba. Après l'élève, il se marie avec elle, avec les 50 000. Et maintenant, le maître, il doit donner 50 000 à l'élève. Il arrive le moment qu'il faut rembourser. Alors, il vient chez le maître. Maître, je vous ai prêté 50 000 euros. Il dit, j'ai pas d'argent. Alors, vous savez quoi? Vous allez devenir mon serviteur. D'accord. Il est devenu serviteur. Alors l'élève, avec sa nouvelle femme, ex-femme du premier, nouvelle femme du deuxième, ils étaient assis, un repas, et l'ancien mari, il a servi le vin. Et quand il a servi le vin, son élève et son ex ici, alors il s'est mis à pleurer. Et là, les armes sont tombées dans le vin. Et Dieu, il a décidé, j'ai détruit le temple. Comme ça raconte la Gemara Gittin. Une situation dans la société où il y a de telles choses, ça, c'est pas bon. Ça sent pas bien. Je sais pas si l'histoire, elle est vraie ou c'est un image. Ça change pas, c'est pas d'importance. Donc, ces histoires, ça existe. C'est possible qu'Esaü était très beau. Peut-être il a attiré le regard des femmes. Et toutes les femmes le regardaient comme ça. Et lui, il dit à son au mari, faites attention à votre femme. Et après, furent à la fin. Bon, tout ça, c'est Yitzhak ne savait pas. Mais il savait comment on s'arrange. Il savait comment on s'arrange. Ça, c'est le jour que lui, il a dit... Je veux revenir à la question. Yitzhak, il aimait Esav. La Gemara nous raconte, il a fait tous les 400 coups Esav. Voleur, assassin, violeur. Et chaque fois, il avait une excuse. Il savait s'arranger. Le chef de... Il y a comme ça des gens. Qui tsaïd bepivi, il a trompé son père. Quand il est venu chez son père, il avait toujours une excuse pour apparaître comme tzadik. Il y a des gens qui font des crimes et ils savent se passer pour des victimes. Ils peuvent justifier. C'est très fin. Comment on voit ça quand on lit tous les chazals, comment ça fonctionne avec Esav? Un jour, quand Esav il a dit « Je vais tuer mon frère, j'attends la mort de mon père », les jours de la mort de mon père vont s'approcher et je vais tuer mon frère. C'est encore gentil d'aider. Ils savent tuer mon frère, c'est normal. Il m'a volé tout l'argent, je vais le tuer, ça va. Mais les jours, je ne vais pas le tuer quand papa il est vivant. J'attends, j'aurai la patience. Mais c'est marqué quand même, ils vont se rapprocher le jour. C'est-à-dire quand ils vont se rapprocher. Alors le texte il continue. Rivka est venue chez Yitzhak et dit, écoute mon mari, tu sais que katzti b'chayai, je me dégoûte de ma vie, si Yaakov il se marie avec des femmes comme Esav. Je ne veux pas. Yitzhak il appelle Yaakov, ne te marie pas avec des femmes comme ton frère. Pars chez le frère de ma femme, chez ton oncle Lavan, et marie-toi avec des femmes là-bas. Yaakov, il écoute et il part à Haran. Le texte, il raconte, Esav, il a vu que Yitzhak et Rivka ne sont pas contents de ces femmes. Alors, il est parti se marier avec la fille d'Ishmaël, la sœur de Nevaïot. Il a ajouté comme femme. Comme ça dit le texte à la fin de Parshat Toldot. Ah, les femmes, les Goyot, les Knan, ils ne sont pas bonnes. Il faut se marier avec la famille. Je me marie dans la famille. Mon oncle Ishmaël, c'est de la famille, c'est un type bien. Alors je me marie avec sa fille. Comment il s'appelle sa fille déjà? Hein? Mahalat. Je m'appelle Mahalat. Mahalat bat Ishmaël, la sœur de Nevaïot. Nevaïot, c'est le premier fils de Ishmaël. Nevaïot, Vekedar, c'est le premier fils. La fille d'Ishmaël, la sœur de Nevaïot, il se marie avec elle. La Gemara demande, attends. Pourquoi il s'est marié avec la fille d'Ishmaël? Parce qu'il a vu que le papa n'est pas content qu'on se marie avec des Goya. Donc il voulait se marier avec une femme un peu plus de la famille qu'une fille de famille. Mais pourquoi on dit qu'elle était la sœur de Nevaïot? Si elle est la fille d'Ishmaël, elle est la sœur de Nevaïot. Hein? J'entends pas. Alors Rashi raconte, quand il se fiançait avec cette fille, Ishmaël était vivant, mais entre le fiançailles et le mariage, Ishmaël il est mort. Et le mariage était déjà payé, organisé par le frère Nevaïot. C'est pour ça que la Torah nous dit Nevaïot. Et pourquoi la Torah nous raconte ça? Parce que c'est son fils qui paye le traiteur, si c'est papa Ishmaël ou frère Nevaïot. Pourquoi la Torah nous raconte ces détails? Dit le Midrash, que Esaü il se marie avec les filles d'Ishmaël. Le Chumash, il semble, il se marie avec les filles d'Ishmaël parce qu'il voulait une fille un peu plus religieuse. Mais lui, il dit, Yikrevou, ils vont se rapprocher. Alors il marque dans Yeheskel, il est marqué comme ça. Esaü, il a dit comme ça. Moi, il faut que je tue Yaakov. Mais si je tue Yaakov, et mon père Yitzhak, il est vivant, il va me maudire. Je ne peux pas tuer tant que mon père Yitzhak, il est vivant. Il va me maudire. Ah, il faut d'abord que Yitzhak, il meure. Mais je ne peux pas tuer mon père. Je ne peux pas faire ça. Je vais me marier avec les filles d'Esav. Ah, les filles d'Ishmaël. Après, je vais dire, dis-moi, tonton Ishmaël, qui était mon beau-père maintenant, dis-moi, comment ça se fait que grand-père Abraham, il a donné tout l'héritage à Yitzhak et pas à toi, Ishmaël. Tout Eretz Israël, il a donné à Yitzhak, à mon père Yitzhak. Et toi, tu es sorti avec quelques cadeaux, il est marqué. C'est pas juste. Tu es le fils Bechor. Pourquoi le grand-père, il a donné à mon père Yitzhak et pas à toi, Ishmaël? Tu es le Bechor? Après, qu'est-ce qu'il va me dire, Ishmaël? Oui, c'est un problème, je ne sais pas. C'est comme ça, mon père Abraham, il a décidé. Dis-moi, tu ne penses pas que Yitzhak, il a manipulé son père Abraham? Qu'est-ce que tu dis, neveu? Moi, je dis que mon père Yitzhak, il a manipulé Abraham pour que lui reçoive l'héritage et pas toi, Ishmaël. Ah oui, c'est logique. Mais évidemment, mais je suis fou, moi. Mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Tu penses que... Oui, je pense. Mon père, il est... Eh bien, Ishmaël va s'énerver et Ishmaël va tuer mon père Yitzhak. Il va me débarrasser de Yitzhak. Après débarrasser Yitzhak, mon père n'existerait plus. Je pourrais tuer Yaakov. Mais attends, mais Ishmaël, c'est aussi un truc. Mais je peux tuer après Ishmaël, parce qu'il a tué mon père, je suis le goël Adam, j'ai le droit de me venger. Quand je verrai qu'Ishmaël a tué mon père Yitzhak, moi je vais tuer Ishmaël. Alors je peux tuer Ishmaël, je vais tuer Yaakov, après j'aurai tout. Le Midrash dit, ça c'était la pensée, c'est marqué de Yeheskel. Yahan, parce que ta pensée de liquider Ishmaël est ton frère, et Dieu il savait tous ces trucs, tous ces traduits. Et c'est pour ça que Esaü, tu es un voyou. Tu es le voyou, et c'est pour ça que je te déteste, Esaü, parce que je savais. À la fin du temps, on va te le faire sortir, ça. Comme ça, il est marqué dans le Passouk de Yeheskel. Et Esaü, il était comme ça. Mais bon, maintenant, on va laisser le vrai Esaü, on va laisser à côté. On va regarder les Esaü que la Torah présente, pas que le Tanakh et Chachamim présente. On va regarder ce que la Torah raconte. Yitzhak, il aime Esaü, du début jusqu'à la fin. Et il veut lui donner la bracha. Il veut lui donner. Avec tout ce qu'il a entendu, qu'il a tué Nimrod et qu'il est vieux femme, sur ça, il y a toujours des justifications. Il aimait. Comment ça se fait qu'il aime? Mais Esaü était quand même un peu bizarre, non? Lui, Esaü était un peu un type bizarre. Mais il aimait quand même. C'est mon fils. Mais aimer pour donner la bracha, c'est très fort. Il n'a rien senti, Yitzhak, il n'a rien. Il tue quand même des gens. Et il aime, il est aveugle, Yitzhak. Bon, on va essayer de comprendre un petit peu Esaü. Il faut percer un petit peu le secret de M. Esaü. Comment il est né? Pourquoi il s'appelle Esaü? Assouï. C'est quoi Assouï? Il est fait. Ça veut dire quoi, il est fait? Va yikro shemo Esaü. Le jour qu'il est né, tout le monde l'appelait Esaü. Assouï, il est fait comme un adulte. Il est né avec une peau adulte et même la barbe. Et les dents. Et il est né avec des dents. C'est pour ça que sa mère ne pouvait pas lui donner le biberon direct. Il fallait donner le biberon autrement. Il ne pouvait pas lui donner du lait, parce que sinon il mordait. Bon, ce n'est pas sa faute, il a des dents. Et il est né avec une barbe. Et il est rouge, comme la sauce tomate. Et il est comme une peluche, comme un ours, avec la barbe. Maintenant, il est parti à la crèche. Il vient à la crèche. Alors, il arrive un gamin de 1 an et demi avec la barbe. Hein? Et les autres enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Et tous les enfants, ils vont. Quel monstre! Est-ce que c'est un ours? C'est un orang-outan? Rouge comme des tomates. Mais c'est quoi comme individu? Qu'est-ce qui me regarde? Et après, il va à l'école. Il a 5 ans, il va au cheder. Moi, je ne vais pas être assis à côté de ce type-là. Mais c'est un animal. Animal sur 2 pieds. T'as vu cet animal? Qu'est-ce qu'il a dit? Papa, il m'appelle l'animal. Mon pauvre fils. Papa, personne ne va être à côté de moi. Il rigole quand je parle. Les gens, ils me fuient. Mais je déteste ces gens-là. Moi, je ne supporte plus. Moi, je ne veux pas aller à l'école. Mon fils va à l'école et tout. À l'école. Mais personne ne me parle. Mais personne ne me supporte. Ils me prennent pour un fou. Qu'est-ce qu'il se passe? Un enfant qui est autiste, un enfant qui est... Il y a des enfants, des fois, ils ont du mal à communiquer avec les trucs. Et les autres enfants, ils s'éloignent. Et lui, il commence à détester les gens. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Il est devenu grand, il est parti dans la forêt chasser. Et pourquoi tu pars dans la forêt? En forêt, personne ne rigole de moi. Mais je ne supporte pas les gens. Moi, je ne supporte pas les gens. Ils ne me supportent pas, je ne les supporte pas, oui. Chez les animaux, là-bas, personne ne rigole de moi. Et en plus, je suis le chef, là-bas. Là, ils m'acceptent. Les animaux, ils m'acceptent. Je suis comme eux. Mais les sociétés, je ne supporte pas. Mais est-ce que Esav, il était méchant ou il était victime d'une malformation? Et il a, pourquoi il a tellement beaucoup de poils? Et Yaakov Ishalak, il était lisse. Il a piqué tous les testostérone de son frère. Il a piqué lui. Alors, il est sorti comme ça, il était 2 frères jumeaux. Il a tout piqué. Et il est sorti bizarre.
Il a bu le sang de sa mère dans le ventre.
Il a bu le sang de sa mère, ça veut dire quoi?
Il n'est pas obligé de le faire, ça, il l'a fait.
Il a bu le sang de sa mère? Où il a bu le sang de sa mère?
Il a bu quand elle a accouché, il a tout bu. Il place en terrain.
Ah, ça, je ne savais pas. Qui vous a dit ça? C'est une adresse comme ça? Ah, je ne savais pas ça. Celle-là, je ne le savais pas. Alors, il faut venir à Montrouge pour savoir ça. En vérité, il faut comprendre quelque chose. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des assassins. Par minan, quand il y a un assassin, il y a la prison, on va le juger. Comment ça se passe? Avant le jugement, on envoie un psy dans la prison. Et le psy s'installe et il dit, racontez-moi votre vie. Et le type, il raconte, vous avez tué, oui. Et il paraît que vous n'avez pas que tué, vous étiez voleur pendant 15 ans. Oui. C'est beau. Non. Et pourquoi vous avez fait ça? Vous voulez le savoir? Ouais. Alors, vous connaissez mon père? Non. Mon père était alcoolique. Il frappait ma mère tous les jours. Il me frappait moi aussi. J'avais 3 ans, je me rappelle. Il m'a donné une baffe. Ma tête a éclaté. Quand j'avais 7 ans, il m'a renvoyé de la maison. Et je crevais de faim. Il m'a privé, il m'a enfermé. Mon père était un fou. Il m'a enfermé 36 heures sans rien manger. Après, il m'a renvoyé de la maison. Et je crevais de faim. Un copain, il m'a vu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, je crève de faim. Il m'a dit, viens, on va aller au magasin. Et j'ai pris un croissant, je suis sauvé. Ils m'ont couru derrière, ils m'ont frappé, ils m'ont enlevé le croissant. Ils sont méchants, les gens. Après, le copain, il m'a traîné. Et il raconte sa vie, je ne vais pas raconter maintenant un film. Mais Kitsour, j'étais abandonné dans la rue. Et quelqu'un, alors je suis tombé des mauvais copains, c'était des voleurs. Et après, j'ai volé. Après, j'ai fait des 400 coups. Après, j'ai tombé dans l'alcool moi-même. Après, j'ai voulu s'en sortir. Et j'ai sorti, et je n'arrivais pas. Et j'avais pas quoi manger, j'avais pas de papa, j'avais pas de maman. Mais Kitsour, à la fin, il raconte sa carrière, comment il est devenu. Quand tu entends ce genre d'histoire, qu'est-ce que tu dis sur ce type-là? Hein? Qu'est-ce que tu dis sur ce type? Lui-même, il est victime. Et des fois, ils sont tellement victimes, tu as envie de pleurer. Il dit, moi aussi, j'aurais vécu comme ça. Des circonstances comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Alors, il est devenu voleur, il ne pouvait pas faire autrement. Et après, il a commencé à se droguer, je suis devenu fou. À la fin, je vais raconter une histoire. Comme ça, le monde raconte comme ça. Je ne sais pas si l'histoire elle est inventée ou elle est vraie. On raconte qu'elle est vraie, l'histoire. On dit, c'était chez Abraham Kreisler, l'histoire. C'est un rave qui a vécu avant la guerre, après la guerre. Je ne sais pas où c'est vrai ou faux, mais ça ne change pas. On raconte, il était en Pologne, il avait une grande somme d'argent, il devait l'amener dans une ville. Mais il fallait passer la forêt. On lui a dit, dans cette forêt, il y a des bandits. Il y a des bandits juifs même. Et c'est dangereux. N'allez pas. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Faire le tour? Faire le tour, ça va prendre une semaine, le voyage. Ici, ça prend quelques heures. Bon, ils étaient plusieurs juifs. Bon, ça va, Dieu va nous protéger. On va passer la forêt. On ne peut pas faire autrement, on n'a pas le temps. Et ils ont passé la forêt. Ils ont tombé nez à nez avec les bandits. Et le chef des bandits était un juif. Alors il dit, Hit, donne-moi l'argent. Je lui ai donné l'argent. Après, il me dit, vous croyez que vous allez continuer maintenant et vous allez aller dans la ville là-bas et appeler la police? Ils vont venir nous chercher. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas vous laisser vivant. On va vous égorger. On ne peut pas faire autrement. Mais je suis correct. Je vous laisse 10 minutes. Comme le juge, je laisse 10 minutes. Vous allez vous arranger avec les seigneurs, avec Dieu. Vous faites ce que vous voulez, 10 minutes. Après, je vous tue. Bon. Alors, l'arabe, il a fait comme ça. Pendant 10 minutes. Et après, il lève la tête, il regarde le bandit en face. Il fait comme ça. Et le bandit, il se lève, il donne l'argent. Prenez l'argent et partez. Vous êtes libre. Il a pris l'argent et ils sont partis. Alors les gens qui étaient autour de Sarah, ils ont dit, vous êtes magicien, vous avez utilisé Shem Hamafourash, qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez envoûté? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors il a dit comme ça, ni je suis magicien, ni je fais un miracle, je vais vous dire ce que je fais. Je me suis dit, comment c'est possible qu'un juif, il tombe tellement bas de dévaliser l'argent, de tuer des gens, il est prêt à tuer d'autres juifs. Comment c'est possible? Je me suis dit, d'où il vient ce juif? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'arrive pas comme ça à tuer des gens. Sûrement comme ça. J'ai fait un film quand il était petit. Son père sûrement était violent. Il était renvoyé. C'est le film que je faisais avant, il se faisait. Et il était ça, il est devenu ça, il est devenu ça. C'est une victime des circonstances. Et moi, dans ma tête, je suis revenu pour enlever ma haine contre lui et de voir cet homme-là, il est victime. Et après 10 minutes, je regardais sur lui. J'ai pitié de lui que cette âme était morte en bas. Et moi, je fais ce chemin dans moi. Et lui aussi, il a fait ce chemin. Ce chemin, lui aussi, il a fait. Comment j'arrive à tuer des juifs? tellement bas, je suis tombé. J'arrive à tuer les Juifs, je ne peux pas le faire. Alors il a rendu l'argent, il nous a libérés. Moi, j'ai fait ce chemin, lui, il a fait ce chemin. Parce qu'il y a une règle dans la Gemara qui dit que l'ev maim panim el panim ken bel lev meneha adam. Il est marqué que Yosef, quand il était le roi, les frères sont venus. Alors le texte il dit, et Yosef, il a reconnu ses frères. Ah, voilà mes frères qui sont venus. Après, la Torah répète une deuxième fois. Et Yosef, il a reconnu ses frères, et ses frères, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, la grande question que tout le monde demande, il est marqué deux fois, Yosef a reconnu ses frères. D'abord, il a reconnu les frères. Après, la Torah dit, il a reconnu ses frères, et les frères, ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qu'il dit, le deuxième verset? Il dit, le Or HaChaim, que Yosef, il a reconnu ses frères, et il se marque un chumash, et il s'est rappelé tout ce qui s'est passé avec ses frères. Donc, Yosef, dans sa tête, il a fait le film. Et les frères, et moi je dis, ils vont se prosterner. Il a fait le film du passé, et il sait toujours plus et plus, c'est mes frères, mes frères, mes frères, mes frères. Mais c'est mes frères, et lui il a dit ça, lui il a dit ça. Après lui m'a pris, il m'a vendu, il m'a déchiré la chemise, il m'a vendu. Il a fait le film. Quand un homme, il fait le film de l'autre qu'il avait qu'avec lui, selon une nature, il y a une nature que l'autre pense la même chose. L'autre aussi fait le film. Je pense de toi, on a été ensemble, et on a fait ça, et ça, et moi je pense. L'autre, il aurait dû faire, ah oui, c'est Yosef. La Torah nous raconte que malgré que Yosef, il a reconnu et fait le film, pourtant les frères, ça ne les a pas fait bouger. Pour les frères, c'était tellement impossible, exclu de leur esprit, que Yosef sera le roi, ils ne pouvaient pas s'imaginer que l'homme devant eux, il est Yosef. Donc, ça c'est le chidouche. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Yosef, il vit une scène, et comment ça se fait? C'est tellement loin de chez eux. Maintenant, on va revenir à la question. Pourquoi la Torah raconte l'histoire des Esav d'une manière comme si c'est Esav le tzaddik et Yaakov c'est le voyou? En vérité, Yaakov, il savait qui est Esav depuis le début. Et Yaakov, il a pris la prora. Pourquoi il a pris la prora? Il a dit, frère, tu me vends la prora. Rashi raconte, il a dit, dis-moi, c'est quoi exactement la prora? Dis-moi, ça veut dire quoi? Il dit, le fils aîné dans notre famille, grand-papa Abraham, c'est le tzaddik, le prophète, papa Yitzhak, c'est le tzaddik, ça va échoir chez nous le service de Dieu, et le pror, il travaille au Beth Amikdash. C'est quoi travailler au Beth Amikdash? Dis-moi. Eh bien, on égorge des bêtes. Ah oui, ça me va bien, égorger les bêtes, moi, oui, ça me va bien. Et après, il faut manger ces bêtes. Ah oui, ça me va aussi bien, pour le moment, ça va. Mais il y a des conditions. Quelles conditions? Il faut être pur. Si on a touché un mort, on a touché une souris morte, ou toutes sortes de toumot, on ne peut pas travailler, sinon on a chayav mita. Et il y a plein de halakhot. Il y a plein de halakhot pour travailler Beth Amikdash. Sinon on a chayav mita. Il a dit, je vais mourir, c'est pas pour moi. Pour ça, il faut connaître tellement beaucoup d'halakhot. Faites un mitracham, il faut savoir, je ne peux pas faire ça. Alors Yaakov lui dit, je le prends si tu veux, on va échanger. Quand après il a pris la prora, il ne voulait pas, c'est marqué dans Midrash, Yaakov il pleurait, il a dit, maman je ne fais pas ça, je ne peux pas tromper papa. Il est tout obligé. Esav n'a pas le droit. Si Esav reçoit la bracha, il va te tuer, il va t'écraser. Tout ce qu'il raconte à papa qui va te nourrir, ça c'est un autre sujet, je n'ai pas le temps de parler maintenant. Quelles étaient les paroles que Esav disait, je vais nourrir Yaakov, je vais protéger Yaakov. Esav il a dit, je tue un Nimrod pour protéger Yaakov. Esav il a dit, tous les gens que je tue, c'est tous les bandits du monde, je liquide les bandits, tout ça je le fais pour Yaakov. Tout l'argent que je ramasse, c'est pour nourrir Yaakov. Yaakov, c'est le tzaddik, c'est le chacham. Tout je donne pour lui. et tout était faux, tout était vil. Et Rivka savait la vérité. Tout Rivka savait la vérité, le prophète lui a dit. Elle est partie demander Shem, pourquoi ça bouge ici? Elle dit, tu en as deux enfants. Il y avait, quand elle est passée à côté de Maître Shem, il y en a un qui voulait sortir. Quand elle est passée à côté de la maison de Zara aussi, elle a dit, mon fils, il est quoi? Il est schizophrène. Et Shem lui a dit, non, tu as deux enfants. Et ils veulent, c'est d'un côté, l'autre côté, un saint tzaddik, l'autre saint rachat. Et tu le gardes pour toi. Et Rivka connaissait le secret. Tu es obligé de prendre la bracha. Il n'a pas le droit, il va t'écraser. Et Yaakov, il a pleuré. Tu es obligé de le faire. Mais tout ça dans le texte, tu lis le texte, tu as le sentiment que Yaakov, il est un filou. Et ils savent, c'est un tzaddik. Pourquoi la Torah parle de ce langage? C'est justement parce qu'en vérité, Esav, d'une certaine manière, était victime. Parce qu'il y a un autre regard sur Esav. On peut regarder Esav comme un tzaddik. On peut regarder Esav comme une victime. Et qu'est-ce que la Torah veut gagner? La Torah veut gagner pour que quand tu vois un rachat, sache que des fois ça peut être, il n'est pas si rachat. Il peut y avoir une autre possibilité dedans. Il faut que Yaakov le sait. La vie, elle est beaucoup plus profonde que ça. On raconte, il y avait à Kelm, Kelm c'était une ville entre le Pologne et l'Allemagne, Kelm. Il y avait le Magi de Kelm au 19e siècle. C'était un Rav connu, un grand darshan. On dit qu'au début, il était un philosophe et personne ne comprenait qu'est-ce qu'il disait. Un jour, il rencontre Rabbi Israël Salanter. Et Rabbi Israël Salanter, il lui a dit comment il faut parler. Il était le meilleur magid. Son habitude était, chaque semaine, il voyageait d'une ville à l'autre. Et Shabbat, il faisait des discours. Et chaque fois, il demandait dans cette ville-là, qu'est-ce qu'il tourne par an. Et il parlait. Les choses venaient dans la marque. Comme la Chavero, il a rendu les gens bichouas, c'était merveilleux. Rabbi Israël Yehuda, ils appelaient le magid de Kelm. Le monde raconte comme ça une histoire. Arrive un vendredi après-midi et demande le premier juif du village, bonjour, bonjour, comment ça va dans la ville? Bon, ça va. Tout tourne rond? Oui, bon, j'aime tout bien. Les gens qui respectent Shabbat? Oui, bon, j'aime bien. Tout le monde respecte Shabbat. Kashrout, bien sûr. Il y a des voleurs chez vous? Non. Bon, j'aime. On n'a pas de voleurs. C'est bien. Et ah, il y a sauf un, il y a un problème. Oh là là, il va de loin. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qui c'est? Il y a un que le Moïseur. Moïseur, vous savez qu'est-ce que c'est Moïseur en yiddish? Moïseur, un Moser. Un
délateur.
Celui-là, chaque fois, il parle mal des juifs devant les goyim. Et on enlève l'argent des juifs. Et des fois, il y a des juifs qui s'étaient... Ils se sont fait massacrer, ils sont morts. C'est le pire des individus qui existent au monde. Mais il ne faut pas qu'il voit que je parle avec lui, j'ai peur de lui. Il a dit, mais dis-moi, est-ce que tu connais quelque chose de bien, de Yankel? De bien, il n'y a rien de bien. Dis-moi, une chose bien. Oui, ah oui, quand il promet quelque chose, il tient. Quand il promet qu'il va truquer un juif, il le fait, il le met à la prison. Oui, ça c'est vrai. Et les types, ils s'est tiré. Hein, c'est toi? Hein, tu peux continuer à parler? Jusqu'à minuit? D'accord, minuit. Bon, minuit moins 5, non. Alors, Yankel, il arrive. Alors, il dit, le mag, il dit, oh, il est bien, Kef. Ah, et quel plaisir de te voir. Bon, Chabba, Shalom Alechem. Tu sais, Yankel, tu peux me faire un chesed. Avec un pauvre juif. Moi, je ne vais pas de chesed à des juifs. Yankel, je vais te dire, fais-moi un tova, sauve ma vie. Qu'est-ce qu'il veut celui-là de moi? Je suis un pauvre juif, je n'ai pas quoi manger. C'est quoi ma parnassa? Je vais d'une ville à l'autre, et Shabbat, je fais des drachot, et moi, Shabbat, les gens, ils me donnent quelques pièces. Avec ces pièces-là, je dois nourrir ma famille, mais ça ne suffit pas. Mais si un homme important comme toi viendrait à la synagogue. Ah, les gens, ils vont dire, Rabbi Yankef est venu, ils vont me considérer comme important, ils vont donner une pièce un peu plus grande. Moi, je suis synagogue, je ne mets pas les pieds à la synagogue. Mais, oui, mais pour moi, enfin, pour un pauvre juif, tu peux le faire. Et il commence à parler, un pauvre juif, une fois Rachmanout avec moi. Bon, d'accord, je viens. Mais on dit sur toi que quand tu promets quelque chose, tu tiens. Tu viens, hein? Je te compte sur toi. D'accord. Je viens. Vendredi soir, après le manger, tout le monde est là, toute la ville, elle est dans la synagogue. Et le rav aussi. Et on attend. Et il commence par le discours. Jusqu'à la porte, elle s'ouvrait. Qui a la porte? Il n'y a que le dilateur. Waouh, et tout le monde est devenu blond. Ah là là, il amène la police. Ah, il y a déjà la moitié de la communauté, il va dans la prison. Là, celui-là arrive. Tout le monde y tremble. Et il arrive, il regarde tout le monde comme ça. Il se met devant le rav. Il commence à sourire. Alors, il s'élève dans la bima, il commence à faire un discours. C'est marqué dans la Mishnah au Sanhedrin, Kol Yisrael yesh lem chelek olam haba. Tous les Juifs, ils ont une part dans le monde futur. Qu'est-ce que c'est le monde futur? Et commence à raconter qu'est-ce que c'est le monde futur. Ah, c'est beau. Maintenant, vous allez me dire, qui rentre olam haba? Le tzaddik, le top tzaddik. Mais si un homme fait un peu d'avérote, il n'a pas de part dans la Mabba. C'est faux. C'est marqué dans la Mishnah, tous les Juifs, ils ont un part dans la Mabba. Et même si on fait un peu une faute. Vous allez dire, oui, une petite faute, mais pas des grandes fautes. J'ai une preuve du Rambam, même des grandes fautes. Vous allez me dire, oui, mais ça, si on fait une fois, deux fois, mais si pas un homme qui fait 100 fois. C'est faux, même lui, là. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est truc, mais pas... Non, 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 même les plus grands rachats. Tout le monde est là, là-bas. Et il parle une heure, deux heures, trois heures, comme. Et un clé l'entend. Et tout le monde entend les discours. Ça y est, c'est bon. Maintenant, tout le monde va partir à la maison. Demain après-midi, je vais continuer à parler la deuxième matinée. Maintenant, tout le monde est fatigué. Je vais continuer demain matin, demain après-midi. Bon, d'accord. Alors, demain après-midi, on va continuer. Hein? Demain après-midi? Ah, alors, d'accord, attends, d'accord. Bon, tout le monde se levait, ils sont partis à la maison. Alors, il dit, Yankel, tu viens demain après-midi aussi? Vous avez dit que tout le monde est là, là, bas, même le plus grand rachat. Oui, oui, oui. Oui, je viendrai. Alors, Shabbat après-midi, tout le monde, il est là. Yankel, il rentre, il prend sa place devant la rave. Et la rave, il se lève. Maintenant, nous allons continuer la Mishnah. Et voilà ceux qui n'ont pas très l'éclolam et ils ont. Ils commencent à parler. Il y a des gens qui n'ont pas d'olam haba. Vous allez me dire, ça c'est les gens qui n'en font pas des mitzvot. Non, même des gens qui font des mitzvot, des fois, ils n'ont pas d'olam haba. Qui? Les délateurs. Les délateurs n'ont pas de réclame là-bas. Vous allez me dire que ça, c'est si on fait aucune mitzvah. Non, même si on fait des mitzvot. Ou même si on fait Shabbat. Ou même si on staka. Ou même ça, et même ça. Voilà, et il fait un pipoul. Ils ont perdu le lamaba. Délateur, il a perdu. Et il a parlé pendant 3 heures. Et Motze Shabbat, il est arrivé. Et il a pris ses clics et les claques, il est parti de la ville. Comme ça, on raconte. Et on dit que 17 années après, le Magid de Kem, il est revenu dans cette ville. Il vient vendredi après-midi, et il trouve un jeune, il dit, « Comment il va Yankel le Moïsar ?» Qui c'est? Yankel le Moïsar. Je ne connais pas. Il n'y a pas de Yankel le Moïsar. Jamais entendu parler. Il n'y a pas de Reb Yankel chez vous. Reb Yankel, il y a un Reb Yankel chez nous, oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait Reb Yankel? C'est un type un peu spécial. Il est enfermé jour et nuit au Beit HaMidrash. Il ne sort pas, les gens ils lui apportent à manger. On dit que c'est un Baal Tshuva, il connaît le chasse. Tout le monde le consulte, mais il est dans son truc. Il paraît qu'il y a 17 ans en arrière, il a fait Tshuva. Ah, j'ai trouvé mon Yankel. Alors on dit, Shabbat, je vais faire un drasha. Il se lève, Il dit, voilà, il faut savoir quelque chose. Yom Kippour pardonne tous les péchés, si on fait tchouva. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire tchouva. Qui ne peut pas faire tchouva? Ceux qui volent, ils ne savent plus rendre à qui? Ou quelqu'un qui était délateur et qui l'a provoqué que les gens ils sont morts, comment il va faire tchouva? Mais c'est marqué dans la Gemara que ceux qui ont fait des choses, ils ne peuvent pas réparer. Il faut demander Mechila. Et si les gens qui ont souffert de lui sont déjà morts, il faut aller sur la cimetière. Il faut réunir la communauté. Maintenant, Yanke, maintenant toute la communauté est là. Et maintenant, tu vas demander Mechila devant les gens qui sont ici et devant tous les gens qui sont en Iftar et tous les gens que tu as embêtés dans ta première vie. Et tu leur demandes Mechila et toute la ville va te pardonner. Et tu auras ta Mechila. Et Yanke, il a fait ça et tout. Il est parti, moi, c'est Shabbat. Le pire des Juifs, il y a aussi, même Moïse, il y a des Juifs antisémites. Je ne sais pas si vous avez rencontré un Juif antisémite. Il y a des Juifs qui sont antisémites. Et tu vas regarder leur vie. Je vais raconter une petite anecdote. Il y avait, il s'appelait Rabbi Elzax, et avec Shmuel Kanemnetsky, il y avait deux Bachorim, c'était deux Rosh Hashivot après, à la fin de vie, c'était Rosh Hashivot. On dit que quand ils étaient Bachorim, ils étaient en Amérique. En Amérique, il y a 70 ans en arrière. Ils étaient habillés à la polonaise, comme ça, comme les Bachorim Shiva de Pologne. Alors, ils étaient en Amérique, l'Amérique, c'est... Alors, ils étaient à la gare, et il arrive un juif très assimilé. Alors... Il dit, pourquoi vous avez des chapeaux comme ça, noirs, comme en Pologne? Vous croyez, vous êtes en Pologne, vous ne pouvez pas vous habiller correctement comme tous les goyim ici. Pourquoi vous êtes comme ça? Ils parlent, ils disent comme ça, ils leur crient. Alors, un baron ici va, il a fait, English, Yiddish, non, English. Il fait, comme il ne comprend pas. Alors, il dit, pourquoi vous êtes avec ces chapeaux noirs et vous n'êtes pas en Pologne et tout? Il dit, moi, Amish. Vous connaissez les Amish? C'est des catholiques, des protestants, je ne sais pas quoi ce qu'ils sont. Des chrétiens en Amérique, ils ont des chapeaux noirs comme les religieux. Et ils vivent un peu reculés. Vous connaissez, ça veut dire que je parle. Et comme ça, ils sont un peu au 19e siècle encore, comme certains religieux. Comme ça, un truc. Ah, il dit, ah, Amish. Amish, oui, je respecte beaucoup, c'est des gens bien. Oui, je comprends, vous avez une tradition de vos parents, de grands-parents, vous êtes fidèles à ce qu'on vous a dit. En vérité, vous avez un peu raison, parce que si en Amérique, la modernité, elle est un peu bizarre, il y a plein de bizarres dans cette société américaine. Et vous, chez vous, c'est mieux et tout, je respecte beaucoup et tout. Et c'est bien. Et après le train, il est arrivé. Et ce juif-là, il monte. Avant qu'il monte, les types étudiants yiddish. Et Rabbi, n'oubliez pas, il y a le Yavo ce soir parce que c'est Rosh Chodesh. Hein? Et il y a le Yavo. Regardez. Ce genre de type juif, on peut le rencontrer des fois. Si tu es un Amish, il respecte. Mais si tu es un Bachor Yeshiva, non, pourquoi? Hein? Quoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que si je suis juif, religieux avec ce chapeau, l'autre il dit, aïe, pourquoi moi je ne suis pas religieux? Mon arrière-grand-père aussi était religieux, moi j'ai tout abandonné. Alors ça l'énerve. Mais si je suis un Amish, ça ne le dérange pas. Les Amish, vous savez. Moi je suis juif assimilé américain, lui il est Amish, et son chapeau ça ne me dérange pas. Mais les juifs religieux avec ce chapeau, ils lui rappellent la religion. Et cette religion que peut-être celui-là a abandonnée pour des multiples raisons. On va savoir pourquoi, à cause de ça, à cause de la guerre ou avant la guerre. Mille choses. Même les juifs antisémites, on peut le comprendre. Et si un chrétien, il lit le Chumash, un chrétien, il prend la Bible, Ésaü, il était rouge, poilu, et Jacob, il était étudiant, et Jacob, il vient, et je te donne pas la soupe rouge. Ah non, tu dois me vendre les... Il est malin, celui-là, hein, et c'est ces juifs-là, hein. Quoi? Moi, je suis Ésaü, ton fils. Il lui a la bracha, mais il a raison, ça, ils savent de le détester. Même le chrétien, il lit le Chumash, il peut comprendre à Verlan. La Torah a écrit un texte pour comprendre. Il y a plusieurs lectures dans les histoires. L'histoire, elle est plus compliquée. Justement, même un juif qui est devenu chrétien, il dit, mais je suis fou, mais je suis à côté de la plaque, mais les juifs disaient ma raison. Mais ils savaient les tordus. Alors moi, je suis fou, alors j'étais fou. Non, j'étais pas fou, j'avais une autre lecture. Je suis pas fou, j'avais une autre lecture de l'histoire. L'histoire, je croyais qu'il faut détester les juifs. Mais les juifs sont bien, c'est les autres tordus. Alors si les autres tordus, alors je crois qu'il y a des tordus. Non, ils ne sont pas si tordus. Parce qu'on peut aussi comprendre comme eux. Donc je n'étais pas si tordu. Donc je vais faire tchouva maintenant. Il y a des gens, quand tu dis, mais t'es tordu. Mais c'est vrai que je suis tordu. Mais je suis tordu. Alors je reste tordu. Alors je suis tordu, alors je reste. Non, en vérité, je ne suis pas si tordu. Il y a une justification pourquoi je suis comme ça. Donc je suis un peu à côté de la plaque. Sur ça, un peu, j'ai fait tchouva. Et après, le reste, ça se comprend. La Torah, elle a écrit dans un texte, elle veut justement récupérer. Je reviens à la tête de Esaü. Ça vous dit quelque chose? Il était où enterré la tête d'Esaü? Mais qu'est-ce qui fait la tête d'Esaü dans le Marat HaMachpela? Et c'est marqué que Yitzhak, il a pris sur son sein. Il a pris la tête. Esaü, la tête. La tête, c'est quoi la tête? C'est ce qui est en haut. Chez Esaü, en haut, il y a des grandes neshamot. Rabbi Meir était le fils de qui? De son père. Non, Rabbi Meir était fils de son père. Oui. Et qui est son père?
Néron.
Néron. Vous connaissez Néron? Néron, l'empereur romain. Bon, ils disent qu'il était fou. Il y en a qui disent, on ne sait pas comment il a disparu. Ce qui est d'ailleurs vrai, parce qu'il s'est converti. Il y en a qui disent qu'il a brûlé Rome. Il y a plein de trucs. Il y en a qui disent qu'il a brûlé Rome. Il y en a qui disent qu'il s'est suicidé. Il y en a des trucs. L'Agma nous dit qu'il s'est converti. Et son fils, il est Rabbi Meir. Et qu'est-ce qui fait Rabbi Meir, le fils d'un empereur sanguinaire? Oui. Et Rabbi Kiva est le fils d'un guerre. Et combien de guérims il y a chez les chrétiens? Des grands tzadikim. Quand Yaakov Avinu, il était devant Esaü. Vayira Yaakov Maot, Vayetzarlo. Il a très peur, il est très angoissé. La grand-mère demande pourquoi la Torah nous donne deux verbes, Vayira, Vayetzar. Il avait peur, il était angoissé. Là, on a dit, il avait peur qu'Esaü le tue, il avait peur que lui tue Esaü. Parce que Yaakov était plus fort qu'Esaü. En muscle, il était plus fort. Si Esaü il vient, peut-être il va le tuer. Mais lui, il peut aussi tuer Esaü. Et des deux choses, il avait peur. Et pourquoi des deux choses, t'as peur? T'as peur qu'on va te tuer, je comprends. Mais si l'autre est obligé de tuer, eh bien tu tues. Non, je ne veux pas tuer Esaü. Pourquoi tu ne veux pas tuer Esaü? Mais Esaü, c'est mon frère. C'est le fils de mon père. Dans Esaü, il y a des grandes neshamot. Dans Esaü, il y a aussi un système qui peut être autrement. Lui aussi, il est victime de quelque chose qu'il n'est pas fautif pour ça. Après, il a fait les 400 coups, mais il est victime. Depuis qu'il était à la crèche, il était victime de la société. Et alors, il est devenu méchant. Ah, il a exagéré dans sa méchanceté, mais ça aussi. Je vais peut-être tuer, il y aura des grandes personnes qui vont sortir de ces Esaü. Si je le tue, il n'existe plus. Il avait peur, il ne voulait pas le tuer. Et la tête, la somme était des Esaü. était chez Yitzhak. Yitzhak, il a gagné son coup. Yitzhak, il aimait Esav. Mais qu'est-ce que tu aimes ce rachat? Bon, il ne savait pas. En réalité, c'est une erreur. Il n'aurait pas dû l'aimer. Non, il a réussi son coup. Il a dû aimer. Et jusqu'à la fin, Esav, il aimait Yitzhak. Et Esav, il a dit, je tuerai jamais mon frère tant que mon père il est vivant. Je ne veux pas faire ce tsar à mon père. Il y a ça aussi. Et quand il se marie avec les filles d'Ishmaël, Tourmashi dit, parce qu'il a vu que le père n'est pas content, je veux une femme un peu plus religieuse. Ça aussi, c'est vrai. Il avait une pensée pour qu'Esav, pour qu'Ishmaël, il tue Esav, qu'il tue Yitzhak. Et après lui, il peut tuer Ishmaël et Yaakov. Il avait ça aussi, mais elle a l'autre côté aussi. Je veux me marier avec une femme un peu plus religieuse. Et je vais jamais faire la douleur à mon père de tuer Yaakov quand mon père il est vivant. Il y avait les deux côtés dedans. Et Yitzhak, il aimait, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. J'entends sur toi plein de choses et tu t'excuses. Je t'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'il gagnait, Yitzhak? Eh bien, il a gagné. Il a récupéré la tête. Et que chez Esav aussi, après, il y a des gens qui vont devenir des tzadikim. Il y a des grands chachamim qui sont devenus des juifs. Ça, Yitzhak, il a récupéré. On croit qu'Yitzhak, il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Parce que moi, il ne s'est pas trompé. Il a réussi aussi son coup. Et ça, c'est ce Rivka, il a dit, les deux, ils vont mourir. Les deux, ils vont être enterrés ensemble. Et la tête, au moins... Et ils savaient l'intérêt. Shavua tov.